Vous êtes bien sur Europe 1, il est 19h.
Au mois d'avril à Paris, nous avons moins de doses qu'au mois de mars. On ne pourra pas vacciner toutes ces catégories de personnes supplémentaires avec de moins en moins de doses.
Ils ont 60 ans et ils peuvent se faire vacciner depuis ce matin. Problème, ils ne peuvent pas assez de doses. Reportage dès le début de ce journal.
Et à partir de demain, ce sera le tour des enseignants, des policiers, des gendarmes. En tout, 400 000 personnes âgées de plus de 55 ans et particulièrement exposées au virus.
Début de marche arrière à l'éducation nationale. Les étudiants de BTS qui ne pourront pas faire valider leur diplôme auront droit à une session de rattrapage.
On efface tout à Strasbourg. La ville ne financera pas la future mosquée. L'association turque qui avait demandé une subvention préfère renoncer.
Le Royaume-Uni se prépare à dire adieu à son prince. Les obsèques du prince Philippe auront lieu demain à Windsor. Et puis exercice militaire grandeur nature aux États-Unis, Français, Britanniques et Américains réunis pour des manœuvres de grande ampleur. L'œil de Didier François dans ce journal.
Anissa Haddadi, un petit peu moins de gelée demain matin, ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, les températures vont se radoucir, alors tout doucement et très légèrement. Nous aurons toujours des valeurs négatives sur les régions centrales, mais un petit peu moins que ces derniers jours. Elles disparaîtront dimanche. Dans le sud, ça va se gâter. Demain, je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
La crise sanitaire se stabilise à un niveau élevé, mais la campagne de vaccination franchit encore un cap supplémentaire. Près de 12 millions de personnes ont reçu au moins une première dose. Et depuis ce matin, les plus de 60 ans avec ou sans comorbidité peuvent aussi se faire vacciner, à condition d'avoir les doses. Johanna Chabas, c'est ce que vous avez constaté dans le centre de vaccination du 15e arrondissement de Paris. Il y a du retard à l'allumage.
Oui, dans cette mairie d'arrondissement, la vaccination des personnes de 60 à 69 ans n'a même pas pu commencer. Béatrice, 61 ans, qui habite dans le quartier, comptait beaucoup sur aujourd'hui pour enfin être vaccinée. Mais elle n'a même pas réussi à prendre rendez-vous.
J'avais regardé depuis le début de la semaine si je pouvais prendre rendez-vous. Il n'y a aucun rendez-vous. J'ai réessayé aujourd'hui puisque c'était ouvert aux plus de 60 ans. Toujours pas de rendez-vous. Aucune possibilité d'en prendre un, même à moyen terme. Voilà, aucune visibilité.
La faute à des sites de réservation pris d'assaut. Impossible d'avoir un rendez-vous à Paris avant une dizaine de jours. Mais pour Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement, le problème, c'est surtout le manque de doses.
Au mois d'avril à Paris, nous avons moins de doses qu'au mois de mars. On passe de 40 000 doses hebdomadaires à 30 000 doses pour tout Paris. Déjà, ce sont des quantités qui sont très faibles et en plus, elles sont diminuées ce mois-ci. On ne pourra pas vacciner toutes ces catégories de personnes supplémentaires avec de moins en moins de doses.
Autre problème, selon lui, 2/3 des vaccins dans son centre sont maintenant destinés à des rappels des deuxièmes doses, ce qui ralentit forcément le rythme des primo-injections.
Merci Johanna Chabas. Les plus de 60 ans donc, depuis ce matin, à condition qu'il y ait, on l'a bien compris, suffisamment de doses. Demain, ce sera au tour des enseignants, des policiers, des gendarmes. Au total, 400 000 personnes de plus de 55 ans exposées au Covid.
Alors le retard à l'allumage dans ce centre parisien ne doit pas masquer une réalité. La vaccination accélère, plus de 450 000 injections par jour. La couverture vaccinale qui reste cependant encore relativement faible, près de 23% de la population majeure a reçu une première dose. Le taux passe à 8% pour deux doses.
L'affaire avait fait beaucoup de bruit. La colère des étudiants de BTS a finalement été entendue jusque dans les couloirs du ministère de l'Éducation nationale.
On rappelle que ces étudiants étaient obligés d'être présents physiquement dans leur école pour passer l'examen final. Covid ou pas, c'était zéro pointé en cas d'absence, même pour cas de force majeure.
Alors, il y aura finalement une session de rattrapage, ce qui n'était pas prévu au départ. Frédéric est étudiant en BTS, assistance technique d'ingénieur. Il fait partie du collectif BTS en détresse qui demandait une réponse au gouvernement. Eh bien, cette proposition ne le satisfait pas.
Déjà, avoir une deuxième chance, c'est très important. Mais après, depuis le début, en fait, ce qu'on veut, c'est un contrôle continu. Parce qu'en fait, moi, ça fait depuis un an que j'ai passé 15 jours en entreprise. Depuis le mois d'octobre, je suis en visioconférence tous les jours pour mes cours. Donc, en fin de compte, j'ai suivi difficilement les cours. On a eu des professeurs absents, des problèmes de connexion. Et en fait, on n'est pas à jour du tout. Donc, on va arriver à l'examen avec des lacunes, avec complètement une inégalité des chances.
Frédéric, étudiant en BTS et membre du collectif BTS en détresse, il répondait à Virginie Riva. À Strasbourg, on peut parler de rebondissement dans l'affaire de la mosquée.
La ville ne subventionnera pas sa construction. L'association d'origine turque Miligorus, qui défendait ce projet, a décidé de renoncer elle-même à cette demande de subvention municipale. La maire de Strasbourg l'a annoncé ce matin et mis un terme à la polémique, Mélina Fachin.
L'association turque Miligorus renonce en effet aux 2,5 millions d'euros que la mairie était prête à lui verser. Cet argent à lui seul n'aurait pas suffi à poursuivre les travaux, comme l'explique Jeanne Barzéguian, la maire de Strasbourg.
Ce qui a le plus changé, c'est en fait le refus des collectivités région Grand Est et collectivités européennes d'Alsace de financer le projet. De fait, ça déséquilibrait le plan de financement et donc l'association m'a adressé hier un courrier me disant qu'à ce stade, ils retiraient leur demande de subvention.
Jeanne Barzéguian souhaite maintenant éteindre la polémique. Elle estime n'avoir commis aucune faute politique, mais elle regrette l'ampleur qu'a pris cette affaire, les critiques virulentes du gouvernement. Quant à l'avenir de la mosquée Eyüp Sultan, il est incertain. Le chantier, commencé il y a plus de 3 ans, est bien engagé, mais loin d'être terminé. L'association, qui n'a pour l'instant pas répondu à nos sollicitations, va sans doute devoir trouver d'autres financements pour ériger la plus grande mosquée d'Europe. Strasbourg, Mélina Fachin, Europe 1.
Et maintenant, une question à 160 milliards d'euros. Que vont faire les Français de leur épargne accumulée?
Alors, on rappelle que ces 160 milliards d'euros, évidemment, c'est l'épargne accumulée depuis le début de la pandémie. Eh bien, l'enquête de l'IFOP apporte un début de réponse. Ils vont l'investir dans l'immobilier. 28% des sondés dépenseront en priorité leurs économies pour acheter un appartement ou une maison. 23% envisagent d'acheter une voiture. Ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour le gouvernement qui voudrait s'appuyer sur ce surplus d'épargne pour doper la reprise.
Europe 1, Isabelle Millet.
Restez avec nous dans un instant, la suite de votre journal sur Europe 1. Didier François nous parlera du plus grand exercice militaire de ces 35 dernières années.
Et puis le Royaume-Uni prépare ses adieux au prince.
Europe Soir, le 18-20. Isabelle Millet.
19h08, c'est la suite du journal de Christophe Lamar sur Europe 1 et le Royaume-Uni se prépare donc à dire adieu au prince Philippe décédé la semaine dernière à 99 ans.
Les obsèques auront lieu demain, mais dans un cadre restreint. Elles se dérouleront dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Mais c'est devant leur télévision que les Britanniques pourront suivre cette cérémonie d'adieu. Pas à Windsor donc, et pas devant Buckingham Palace, et cela en peine beaucoup Anaïs Cordoba.
Nazareth est venue déposer une gerbe de fleurs au pied de Buckingham pour le prince Philippe. Demain, elle regardera les funérailles à la télévision, faute de cérémonie d'hommage national.
C'est vraiment dommage. Les gens pourraient au moins partager ce moment, cet hommage. Mais on ne peut pas à cause de la pandémie, ça me rend très triste.
Christie, venue spécialement du nord de l'Angleterre pour les funérailles, compte se rendre devant Buckingham demain, bravant l'interdiction de se réunir devant les résidences royales.
On aurait quand même bien aimé voir une procession pour pouvoir lui rendre hommage. Il était une figure publique, alors quelque chose aurait dû être organisé pour nous. Nous, le public, nous sommes ceux qui soutenons la famille royale, qui leur donnons leur importance.
Mais d'autres Anglais, comme Phil, approuvent cet enterrement intime qui correspond aux souhaits du défunt prince.
Il était discret, il ne voulait pas de cérémonie en grande pompe. Je pense qu'il serait content de cette cérémonie réduite à cause du Covid. Il ne voulait pas de chichi.
Demain, le cercueil du prince Philippe sera accompagné à la chapelle Saint-Georges dans les jardins du château de Windsor par une procession composée uniquement de militaires et de membres de la famille royale. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Aux États-Unis, Uber est en panne de chauffeurs. La plateforme de VTC promet des bonus pour attirer les candidats.
Et le leader mondial du secteur a un gros problème. Le métier n'attire plus. Pire, il agit même comme un repoussoir chez les candidats potentiels. La faute à des rémunérations trop faibles. Uber promet d'augmenter les revenus de ceux qui souhaitent reprendre ou reprendre le volant. L'entreprise va y consacrer une enveloppe de 250 millions d'euros.
Attention, attention, ceci n'est pas un exercice. En fait, si, heureusement, c'en est un. Mais l'ampleur de cette manœuvre militaire a de quoi impressionner. Hein.
C'est l'exercice le plus important depuis 35 ans. Il réunit les armées de terre françaises, américaines et britanniques. L'exercice s'appelle Warfighter et il s'achève aujourd'hui aux États-Unis.
Et on en parle forcément avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Une manœuvre d'une telle ampleur au sein de l'OTAN, ça n'était pas arrivé depuis, c'est simple, la fin de la guerre froide.
Absolument, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet exercice est aussi important, parce qu'il faut imaginer ce que c'est que l'engagement de 3 divisions appartenant aux 3 principales armées occidentales. C'est énorme. Le poste de commandement déployé pendant 15 jours à Fort Hood, au Texas, c'était 450 officiers capables de faire manœuvrer près de 60 000 hommes avec les chars, les canons, les munitions, toute la logistique que ça implique, ordinateurs, communications, eau, essence, et la chaîne sanitaire des hôpitaux de campagne en mesure de retraiter potentiellement des milliers de blessés et des centaines de morts, parce que l'idée de cet exercice était de jouer un scénario au plus près des conditions réelles d'une guerre. C'est bien de cela qu'il s'agit, d'un affrontement conventionnel avec un État disposant d'une armée parfaitement équipée et entraînée. C'est cela l'objectif de Warfighter, préparer les principales forces de l'OTAN à encaisser conjointement la possibilité d'un choc frontal avec une puissance étatique hostile, une hypothèse de conflit malheureusement redevenue tout à fait crédible dans un futur à seulement quelques dizaines d'années.
On serait donc entré dans une période de durcissement des affrontements militaires.
Et là, c'est en tout cas le constat partagé par la France, les États-Unis et le Royaume-Uni qui observent un effort important de réarmement chez tous nos adversaires potentiels et surtout une attitude de plus en plus décomplexée des puissances émergentes comme la Chine, la Russie, la Turquie ou l'Iran qui n'hésitent plus à recourir à la force en appui de leurs ambitions. Alors que sur les 20 dernières années, depuis en fait le 11 septembre 2001, les Occidentaux étaient plutôt polarisés par la menace terroriste qui, elle, demande quand même un engagement de moyens bien plus léger que ceux nécessaires pour mener une bataille conventionnelle. Un exemple, l'opération Barkhane au Sahel, c'est 5000 hommes. La 3e division française qui est mobilisée pour Warfighter, c'est 5 fois plus. Il faut donc entraîner nos officiers à manœuvrer à une telle échelle, à s'approprier les savoir-faire de ce que le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Thierry Burkhard, appelle le combat de haute intensité face à un ennemi aux moyens très conséquents, en tout cas très supérieurs à ceux des groupes armés terroristes. Et c'est la raison pour laquelle tous les stagiaires de l'école de guerre de l'armée de terre ont fait le déplacement aux États-Unis malgré le risque de Covid et qu'un nouvel exercice sera mené en France en 2023 à l'échelle d'une division. Il s'appellera Orion et ça sera la première fois depuis le dernier exercice en 1987 qui répondait au doux nom de Moineau Hardy.
Oh, on adore
l'œil, avec les Allemands.
L'œil de Didier François, spécialiste des questions internationales tous les soirs dans ce journal de 19h. Merci beaucoup Didier. Les États-Unis qui vont peut-être parvenir à un terrain d'entente après les expulsions croisées de diplomates. Moscou d'y voir d'une manière positive, en tout cas, la proposition de Joe Biden d'organiser un sommet à deux avec Vladimir Poutine.
Allez, le sport, encore une médaille pour le judo français. Amandine Buchard est sacrée championne d'Europe dans la catégorie des moins de 52 kilos. Elle sera l'une des chances françaises de médaille aux Jeux de Tokyo. Le football, un rappel, la 33e journée de Ligue 1. Le leader Lille reçoit Montpellier, coup d'envoi à 21h. À suivre en fil rouge sur Europe 1. Et puis le tennis, Stefanos Tsitsipas retrouvera Daniel Evans en demi-finale du Masters 1000 de Monte Carlo. Et en ce moment, eh bien vous avez Rafael Nadal sur le court face à Andrei Rublev. Et c'est compliqué pour l'Espagnol qui vise une 12e victoire ici à Monte Carlo parce qu'il a perdu la première manche et qu'il est breaké dans la deuxième. Attention, ça ne va pas bien pour Rafael Nadal.
Ah oui, on disait qu'il était favori encore. Bon, écoute, on va suivre ça.
Bon, enfin, attendez, ça, c'est en trois manches, on ne sait jamais.
Il va se rattraper. Merci beaucoup Christophe Lamarre. Très bon week-end à vous.